Travailleuses, travailleurs, chers camarades, chers amis. Nous sortons d'une année de campagne électorale. Pendant un an, nous avons eu droit au cirque habituel du changement et du renouveau. Tous les candidats, et Macron en premier lieu, ont promis que plus rien ne serait jamais comme avant. Tout ça pour qu'ils reprennent les attaques anti-ouvrières exactement au point où Hollande les avait laissées. Macron se prétend moderne. Il nous resserre la vieille soupe patronale. La baisse de l'impôt sur la fortune, la baisse des impôts patronaux, la casse du code du travail. Et c'est toujours le même mensonge. Facilitons les licenciements et il y aura plus d'embauches. Mettons de la flexibilité, cela créera des emplois. Cela fait 20 ans, 30 ans que tous les politiciens de droite, de gauche nous chantent cela. Les cotisations patronales ont été baissées, la flexibilité et la précarité s'est généralisée. Le code du travail a été révisé 5 fois, 10 fois. Pour quel résultat? Est-ce que le chômage est baissé? Est-ce qu'il y a plus d'embauches pour les jeunes? Non. Tout ce qui a augmenté, ce sont les dividendes, la rentabilité, les profits. Comme Sarkozy, comme Hollande, Macron s'en prend aux travailleurs et aux plus pauvres pour faire de nouveaux cadeaux aux plus riches et pour que la bourgeoisie et la finance prospèrent. L'année 2017 s'annonce déjà comme un cru exceptionnel, avec, rien que pour le premier semestre de l'année, 52 milliards de bénéfices annoncés pour les entreprises du CAC 40. Et avec la politique de Macron, eh bien cela va continuer. Macron était l'homme de la finance et de la grande bourgeoisie quand il travaillait chez Rothschild, et il l'est aujourd'hui, en tant que président de la République. Alors oui, tous ceux qui se mobilisent depuis 2 semaines pour dénoncer sa politique anti-ouvrière ont 1000 fois raison de le faire. Au contraire de ce que l'on a entendu dans la plupart des médias, et malgré la politique des directions de Force ouvrière et de la CFDT qui se sont opposées à toute protestation collective, la journée de grève et de manifestation du mardi 12 septembre et celle de jeudi dernier ont été réussies. Et cette contestation ne fait que commencer. Lundi, demain, les routiers sont appelés à différentes actions de blocage. Le 28, ce sera les retraités et la fonction publique appelle à une journée le 10 octobre. Toutes ces mobilisations sont importantes. Elles montrent que la politique de Macron frappe tous les métiers, toutes les corporations et elles participent au mouvement de protestation. Mais il est aussi nécessaire et indispensable de militer pour que les travailleurs se battent tous ensemble. C'est l'ensemble de la politique anti-ouvrière de Macron qu'il faut combattre. Et on ne le fera pas reculer en se battant corporation par corporation ou entreprise par entreprise. Pour le faire reculer, il faut que l'ensemble du monde du travail se lève, qu'il gagne en confiance et en détermination. Nous ne sommes pas condamnés à subir pendant 5 ans. Macron a un Parlement à sa botte et des députés qui voteront comme un seul homme tant que le monde du travail restera sans réaction. Mais le jour où le monde du travail se lèvera, le jour où la bourgeoisie sentira à nouveau le volcan en éruption sous ses pieds, comme elle l'a senti en juin 1936 et plus proche de nous en mai 1968, eh bien oui, tout pourra changer. Pour ne prendre que l'exemple de mai 68, plus proche de nous. Avant cette mobilisation, De Gaulle était présenté par le Parti communiste français, par la CGT, comme incarnant un pouvoir fort. C'était le prétexte, souvent, pour justifier leur passivité et leur politique électoraliste, consistant à dire que finalement tout était suspendu aux prochaines élections. Et puis, eh bien, il y a eu l'explosion de mai 68. Les grèves se sont répandues comme une traînée de poudre dans tout le pays et elles ont permis aux travailleurs de conquérir de nouveaux droits et elles ont conduit De Gaulle à la démission. Je dis ça et pourtant Macron, ce n'est pas De Gaulle, loin de là. Alors, tout dépend de la capacité des travailleurs à reprendre confiance dans leurs forces. Les dirigeants des confédérations syndicales s'érigent en avocats des travailleurs. Comme l'a dit Mailly, le dirigeant de Force ouvrière, il a fait le job en allant négocier pendant plusieurs mois dans les cabinets ministériels. Et puis, ça s'arrête là. Alors, eh bien, fort heureusement, les travailleurs ont d'autres moyens pour se défendre que les plaidoiries d'avocats comme celles de Mailly, de Berger ou de Martinez. Pour se défendre, les travailleurs ont leur force collective, ils ont leurs armes de classe, les grèves, les manifestations et les occupations d'usines. Nous allons vers une période d'instabilité politique et sociale. Et le simple fait que Macron soit contesté au bout de 4 mois, alors qu'il avait fallu 4 ans pour que les travailleurs se manifestent contre la politique de Hollande, le montre. Macron a été élu pour servir la bourgeoisie, alors qu'elle est confrontée à la persistance de la crise de l'économie capitaliste et qu'elle mène une guerre à mort contre le monde du travail. Dans ce contexte, il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir d'état de grâce. Est-ce que le gouvernement craint les protestations? Toujours est-il qu'on l'a vu cette semaine se répandre sur les ondes, pour nous rassurer. La conjoncture économique, meilleure que prévue, paraît-il, permettrait de faire moins de sacrifices. L'État ne supprimerait que 1 600 postes de fonctionnaires en 2018, il ne mettrait fin qu'à 80 000 contrats aidés et il ne chercherait que 16 milliards d'économies au lieu de 20. Et puis, il prendrait même des mesures favorables aux salariés, nous disent les ministres. Avec la fin de la taxe d'habitation et l'augmentation du salaire net pour une fraction des salariés, le ministre du budget, Darmanin, affirme que cela aura même l'effet d'un 13e mois pour beaucoup de salariés. Tout ça, ce sont des tours de passe-passe, où le gouvernement donne d'une main pour reprendre de l'autre. Macron prend dans la poche d'une catégorie de pauvres, en particulier les retraités, pour donner à une autre catégorie de pauvres, parce qu'il n'est pas question pour lui de faire payer quoi que ce soit aux plus riches. Alors il ne faut pas marcher. Il n'y a rien d'autre à attendre du gouvernement actuel que des coups. Ces coups, il les a d'ailleurs annoncés. Et quand on entend les responsables syndicaux ou politiques dire qu'il faut attendre de voir le contenu de tel ou tel texte pour se positionner, eh bien ils endorment les travailleurs. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. La réforme du logement, de la formation, du chômage, de la retraite seront de nouveaux reculs pour les classes populaires. Macron est le représentant de la bourgeoisie. Il a son arrogance, le mépris de classe et il en sera le serviteur zélé. Il n'y a pas de doute. Mais l'offensive contre les travailleurs dépasse les choix d'un Macron. Elle est d'abord le fait de la bourgeoisie, de cette classe qui domine l'économie et qui mène la lutte de classe. Une lutte de classe acharnée contre le monde du travail pour accroître l'exploitation et son parasitisme sur l'économie. Elle est inscrite dans le système capitaliste lui-même. Et dans le contexte de crise économique, cette lutte de classe ne peut qu'être toujours plus acharnée. La bourgeoisie ne peut plus espérer accroître ses profits au travers de l'extension de ses marchés. Ils sont saturés et la concurrence est exacerbée. Elle ne peut trouver des perspectives que dans le parasitisme croissant de la finance et dans l'aggravation de l'exploitation du monde ouvrier. Les profits supplémentaires pour les entreprises du CAC 40 qui ont été annoncés pour le premier semestre, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils ont été pris sur les travailleurs, sur leurs emplois, sur leurs salaires, sur leurs conditions de travail, sur leurs congés. Les présidents de la République vont et viennent. Les majorités parlementaires changent, mais cette réalité de la lutte de classe, elle demeure. Alors non, l'essentiel ne se joue pas dans les rapports de force électoraux entre partis, qui se disputent les premières places dans les institutions. L'essentiel se joue à hauteur d'homme. L'essentiel se joue dans les entreprises et dépend de la capacité des travailleurs à s'organiser et à ne pas se laisser faire. Aujourd'hui, certains travailleurs, des militants de gauche, pensent, je les cite, qu'on n'a finalement que ce que l'on mérite, qu'il fallait bien voter, et que si Mélenchon avait été élu, on ne serait pas dans les mêmes situations. Eh bien, si, on serait fondamentalement dans la même situation. Parce qu'on serait confronté à la même rapacité patronale, à la même dictature de la finance, à la même offensive de la bourgeoisie. Et le président Mélenchon accompagnerait cette offensive, comme avant lui, Hollande, Jospin, Mitterrand l'ont accompagné. Face à l'attaque de Macron et du grand patronat, beaucoup parmi nous ressentent le besoin d'une solution politique. Oui, la réponse doit être politique. Mais la réédition d'une énième union de la gauche est contraire aux intérêts des travailleurs. L'union de la gauche, nous l'avons eue avec Mitterrand, avec Jospin, et Hollande l'a rééditée de fait au second tour de 2012. Et c'est leur politique qui a conduit à l'état de démoralisation et de désorientation où se trouve aujourd'hui le monde du travail. Parce qu'il ne peut pas y avoir de bon gouvernement de gauche dans le cadre du système capitaliste. À partir du moment où le président gouverne dans le cadre de cette domination, en respectant la propriété privée de la bourgeoisie, en acceptant la loi du profit et de la concurrence, il se voue à servir les intérêts de cette classe bourgeoise. Dans la société bourgeoise, le gouvernement est le conseil d'administration de la bourgeoisie, disait Lénine. Combien de fois l'avons-nous vérifié, y compris quand le gouvernement se prétendait de gauche? Tant que la bourgeoisie dominera la société et l'économie avec son capital, on nous amusera avec les élections et les changements de gouvernement, mais nous continuerons de subir sa dictature. Cela changera si les travailleurs arrachent le pouvoir à la bourgeoisie, s'ils mettent fin à la propriété privée des moyens de production, s'ils mettent fin à la concurrence et à la loi aveugle du profit. Cela changera lorsque les travailleurs se porteront eux-mêmes à la direction des entreprises et de la société, comme cela s'est produit lors de périodes révolutionnaires, au moment de la Commune de Paris, par exemple, ou lors de la Révolution russe. Travailleurs s'emparent du pouvoir économique et politique par en bas en construisant leurs propres organes de contrôle et de pouvoir, voilà notre perspective à nous, lutte ouvrière. C'est cette conviction profonde qui nous sépare, et c'est cette perspective qui nous sépare de la politique des partis réformistes que sont le Parti communiste et la France insoumise de Mélenchon. Cette perspective nous distingue sur le long terme, mais elle nous différencie aussi au quotidien, dans la façon de militer et de tourner toute notre politique et nos efforts vers la classe ouvrière et vers les luttes qu'elle mène. Et cela nous distingue aussi dans la façon de participer au moindre mouvement et de mener la moindre grève. À l'inverse des partis réformistes qui sont intégrés dans les institutions et dans la gestion du système et qui n'ont de cesse de se montrer responsables vis-à-vis de la bourgeoisie, eh bien nous n'avons aucun fil à la patte. Et nous sommes en mesure non seulement de soutenir inconditionnellement les travailleurs qui se battent sur la base de leurs intérêts de classe, mais nous sommes aussi pour qu'ils aillent au bout de toutes leurs possibilités. Nous ne craignons pas que les luttes des travailleurs aillent trop loin, qu'elles empiètent sur la propriété privée ou qu'elles déclenchent l'affrontement général. Et nous militons pour que ces luttes soient dirigées par les travailleurs eux-mêmes, pour qu'à chaque mobilisation, aussi minime soit-elle, ils puissent discuter et décider eux-mêmes de leur action. Parce que nous sommes convaincus que l'impulsion, l'énergie qui permettra de changer la société viendra de la classe ouvrière. Et nous militons pour que celle-ci prenne confiance dans ses capacités à diriger non seulement leur mobilisation, mais aussi toute la société. Dans la vie quotidienne, on nous explique exactement l'inverse. On met dans la tête des travailleurs que certains sont qualifiés pour diriger et pas d'autres. On nous met dans la tête qu'il faut forcément s'en remettre à ceux qui ont fait des études, qui ont fait l'ENA, ceux qui ont appris aux politiciens professionnels. Eh bien, il faut s'opposer à tout cela. Et cela aussi, c'est une différence que nous avons, en particulier avec le parti de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon ne se situe pas seulement dans le cadre du capitalisme. Ce n'est pas seulement un parti réformiste, dans la plus pure tradition des partis socialistes. C'est aussi un politicien étranger à la classe ouvrière. Son problème, ce n'est pas d'armer la classe ouvrière, ce n'est pas de lui apprendre sa propre force, ce n'est pas de la conduire à agir par elle-même. Pour nous, c'est notre raison d'être. Nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle. Le monde du travail est sans cesse rabaissé quand les patrons et la bourgeoisie sont mis sur un piédestal. À les entendre, ce sont eux, les patrons, qui donnent du travail aux salariés. Ce sont eux, les patrons, qui font vivre les travailleurs. Mais qui mouille sa chemise sur les chantiers du bâtiment ou des travaux publics? Qui s'esquinte la santé sur les chaînes de montage de l'agroalimentaire, de l'automobile? Qui se dévoue au chevet des malades, des anciens? Qui se lève à 4h du matin pour rejoindre les bataillons du nettoyage? Qui fait rouler les trains pour amener des millions de salariés au travail? Et en plus de faire tout le travail intellectuel et manuel, nous produisons aussi le profit qui est exigé par le capital. Alors, n'en déplaise à la bourgeoisie et derrière elle à la pyrielle de petits patrons méprisants et arrogants, c'est l'inverse qui se passe. C'est notre classe, c'est le monde du travail qui fait vivre les propriétaires et les actionnaires. C'est nous qui entretenons une petite frange d'ultra-riches qui compose le monde bourgeois. Et nous l'entretenons au sens premier du terme. Car même dans leurs quartiers réservés aux bourgeois, même dans les palaces, même sur les yachts de luxe, eh bien ils ont besoin de leurs femmes de ménage, ils ont besoin de leurs chauffeurs, de leurs cuisiniers, de leurs comptables. Madame Bettencourt, qui est décédée cette semaine, qui était la femme la plus riche au monde, était, paraît-il, très raffinée, une amoureuse des arts et de la culture. Peut-être. Mais elle avait une armée de femmes et d'hommes pour la débarrasser de tous les soucis matériels. Et elle n'avait qu'à dormir sur ses deux oreilles pour gagner près d'1 million d'euros par jour, en parasitant le travail de centaines de milliers de femmes et d'hommes de par le monde. Alors, oui, c'est nous, les travailleurs, qui sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Et il faut tout le culot d'un ex-banquier dont toute la classe sociale roule sur l'or et se vautre dans un luxe insolent pour accuser d'égoïsme ou de corporatisme les travailleurs quand ils revendiquent. Au contraire de ce monde bourgeois, lorsque les travailleurs défendent leurs intérêts, ils représentent ceux du plus grand nombre et ils représentent même l'avenir de l'humanité. Parce que l'enjeu du combat qui les oppose à la bourgeoisie et au capitalisme dépasse la défense de nos droits matériels. Il n'y a pas que l'effondrement de l'économie et la montée de la pauvreté qui nous menacent. Il y a aussi les dérèglements écologiques, les menaces guerrières, le terrorisme. Le capitalisme, avec la domination de l'argent, pourrit le monde entier et il menace la survie de l'humanité et même celle de la planète. Alors oui, le combat des exploités, de ceux qui n'ont rien à perdre que leur chaîne, est le seul à offrir une issue à l'humanité. Et encore une fois, la classe ouvrière, les exploités, représentent cette force sociale, parce que c'est une force sociale unique et irremplaçable. De la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, eh bien, nous sommes convaincus que les travailleurs sont capables demain de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire la société sur d'autres bases. Dans le passé, de grands partis ont défendu cette perspective. Aujourd'hui, il n'en existe plus, mais c'est ce parti que nous voulons reconstruire. Alors, si vous en êtes d'accord, eh bien, aidez-nous à faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes pour défendre autour d'eux, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, la perspective de transformer la société pour créer une société communiste.